Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce troisième cours. Aujourd'hui, comme la semaine passée, je vais commencer par vous donner un très bref résumé de ce que je vous ai raconté il y a une semaine. Et puis, nous allons commencer à discuter un peu des organoïdes humains d'une façon relativement générale. Puis ensuite, je prendrai un exemple particulier, qui est un exemple, vous allez le voir, qui est extrêmement intéressant, qui est celui des organoïdes de rétine humaine. Et puis ensuite, je commencerai à parler des trois types d'organoïdes que j'ai choisis pour rentrer un peu plus dans les détails, qui sont, souvenez-vous, les organoïdes intestinaux, les organoïdes de foie, puis les organoïdes de cerveau, les mini-brains. Alors on verra dans cette partie-là que les choses se compliquent un peu parce qu'on ne va pas rester au niveau des concepts, justement, on va vraiment rentrer dans les publications. Et vous allez voir que ce n'est pas si simple, en particulier parce que c'est un champ de recherche qui est relativement jeune et par conséquent, on a encore des publications qui ont des résultats relativement contradictoires et on ne sait pas vraiment où on en est finalement, et c'est ça que j'aimerais vous faire partager en fin de compte. La semaine passée, j'ai terminé de vous parler de ce principe d'auto-organisation. Évidemment, il va rester avec nous tout le long de ces cours, et vous en verrez encore un exemple aujourd'hui. Je vous avais présenté ces expériences très classiques de Johannes Holtfreter et de Gierer. Et puis on a parlé ensuite de la fabrication des organoïdes. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un organoïde en termes logistiques? Comment on les fait pousser? Je vous ai parlé de différents types de cultures, souvenez-vous. L'utilisation du matrigel, l'utilisation d'hydrogel, l'utilisation d'interfaces liquide-air, etc. On a parlé un peu de signaux endogènes, de signaux exogènes, c'est-à-dire des signaux qui sont produits par les cellules elles-mêmes pour s'organiser, ou des signaux qui sont donnés par l'extérieur pour que ces cellules s'auto-organisent. Ensuite, on a parlé de l'origine de ces cellules, cellules souches adultes, cellules souches fœtales, et je vous ai donné un exemple avec ce travail de Anne Grappin-Beton sur le développement des organoïdes de pancréas. Et puis finalement, j'ai parlé des cellules ES et des cellules iPS qui sont vraiment des types cellulaires à bien connaître pour les quatre derniers cours. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de recommencer celui-ci en repassant sur les deux dernières images que je vous avais montrées pour vous dire essentiellement que les cellules souches embryonnaires sont des cellules qui dérivent de ce bouton embryonnaire ici, chez les mammifères. Et par conséquent, ce sont des cellules qui sont pluripotentes, multipotentes, vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais elles ne sont pas totipotentes. Parce que ces cellules sont incapables de fabriquer cette couche de trophectoderme qui entoure l'embryon. Donc elles peuvent refaire tous les types de cellules embryonnaires, mais pas cette couche de tissu de trophectoderme. Ces cellules, lorsqu'on les met en culture, on va isoler ce petit bouton embryonnaire qui est équivalent à ces cellules de la masse cellulaire interne, et puis on va pouvoir les cultiver, les dissocier en cellules uniques, les disperser sur une boîte, et vous allez avoir tous ces petits clones qui vont pousser. Vous voyez qu'ici, un clone d'à peu près une cinquantaine, une soixantaine de cellules, ce sont là des cellules souches embryonnaires de souris dans ce cas particulier. Je vais vous montrer les cellules humaines dans quelques minutes. Donc des groupes de cellules à partir desquelles on peut maintenant fabriquer toute une série d'organoïdes. Le deuxième type cellulaire, les IPS, donc les cellules souches embryonnaires induites. Et là, souvenez-vous encore, ce sont des cellules qui peuvent avoir des origines diverses. Là, j'ai pris une image qui montre des fibroblastes dérivés de cellules adultes, par exemple une petite biopsie de peau. Et à l'intérieur de ces cellules, on va introduire quatre gènes particuliers, ce fameux cocktail de Yamanaka. Et puis ces quatre gènes vont en fait reprogrammer ces cellules pour les transformer en cellules souches embryonnaires, avec des caractéristiques qui sont vraiment très similaires aux cellules que je vous ai montrées précédemment. À partir de ces cellules, on peut bien entendu faire beaucoup de travaux différents, on peut les différencier en culture, on peut étudier des mécanismes pathologiques, on peut essayer de les corriger, on peut faire des analyses à grande échelle, comme on va le voir dans quelques minutes, et on peut fabriquer des organoïdes qui seront très similaires en fait aux organoïdes fabriqués à partir de cellules souches embryonnaires. Voilà. C'est là où nous en étions restés la semaine passée. Et j'aimerais maintenant passer quelques minutes pour vous dire l'importance de ces embryoïdes pour étudier à la fois l'embryon humain, qui évidemment est d'accès extrêmement difficile. Oui.
Juste avant de changer de diapositive, il me semble que je vous ai entendu dire qu'on introduisait quatre gènes.
Oui, exactement.
Ce sont des gènes ou ce sont des facteurs de transcription qui vont activer des gènes portant le même nom ?
Alors, ce sont... Oui. Alors, ce sont en fait ce sont les deux. Donc, ce que l'on introduit, c'est de l'ADN qui va coder, qui contient quatre gènes, qui vont coder pour quatre protéines, qui sont quatre protéines qui elles-mêmes vont déclencher des réactions en chaîne, qui vont reprogrammer ces cellules. Mais ce qu'on introduit dans ces cellules, ce sont quatre gènes, en fait, c'est de l'ADN. Alors, l'importance pour étudier l'embryon humain, puisque, comme vous le savez, c'est un embryon qui est tout de même extrêmement difficile d'accès pour toute une sorte de raisons, des raisons biologiques, bien entendu, des raisons éthiques aussi, et puis le potentiel de ces organoïdes pour un transfert aux études cliniques et à de nouveaux outils thérapeutiques. Ce potentiel est nombreux. L'origine, encore une fois, des biopsies de patients, des cellules ES, des cellules IPS. On peut même aller rechercher des cellules dans des biobanques actuellement, des biobanques qui ont été faites il y a fort longtemps, finalement. On peut décongeler des cellules qu'on avait gardées pour des raisons tout autres que celles-ci, décongeler ces cellules, reprogrammer ces cellules et refaire des organoïdes, éventuellement même à partir de personnes qui ne sont plus là. Tout cela pour conduire à des organoïdes à partir desquels on va pouvoir faire toute une série d'expériences qui évidemment sont pratiquement impossibles à faire, même si on avait un accès libre à l'embryon humain, en fait. Par exemple, des analyses à grande échelle, c'est-à-dire des analyses génomiques pour lesquelles il faut des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de cellules pour pouvoir les faire de façon correcte, ce qui serait évidemment impossible de faire avec un embryon, mais ce que l'on peut faire avec des organoïdes, puisque l'on peut en cultiver pratiquement à volonté. On peut étudier les interactions entre l'hôte et des microbes. On peut bien entendu corriger des mutations qui viendraient d'un patient ou de cellules par ce qu'on appelle de l'édition génomique, ce fameux CRISPR-Cas9, auquel on reviendra peut-être. On peut produire des modèles de pathologie, comme pour avoir in vitro des modèles à étudier. Et puis, on peut faire des criblages moléculaires, des criblages pour des molécules. Souvenez-vous, je vous en parlais lors du premier cours, qui sont des criblages qui ont jusqu'à présent totalement échoué lorsqu'ils ont été faits sur des cellules en culture. C'est une des raisons pour lesquelles ces organoïdes ont été développés, une des raisons pour lesquelles il y a eu une volonté de développer ces organoïdes il y a pratiquement 40 ans, c'est précisément parce que les grandes compagnies pharmaceutiques n'arrivaient pas à isoler ce qu'on appelle des potential leads, donc des produits phares, au travers de criblage en cellules de culture. C'est pas suffisant. Et alors, pour être honnête, il faut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment de produits phares qui ont été isolés par criblage organoïdes. Mais ce sont des systèmes qui sont en train de se mettre en place. L'exemple que je souhaitais vous présenter, c'est un travail magnifique du laboratoire de Bob Johnston, qui travaille à l'université Johns Hopkins à Baltimore, et qui, vous le voyez, est une étude qui est très récente, qui a été publiée en octobre 2018, en octobre de l'année passée. Ce laboratoire est un laboratoire qui est spécialisé dans l'étude du développement de la rétine et des mécanismes qui conduisent au développement de la rétine. C'est évidemment un organe extrêmement important, non seulement dans la vie de tous les jours, mais aussi à cause de toutes les pathologies qui lui sont associées et que vous connaissez très bien. La rétine chez les humains comporte différents types de photorécepteurs. Donc vous savez que la lumière arrive sur ces cellules, sur les cellules photorécepteurs, et ces cellules vont avoir comme but de transformer un signal lumineux en signal neural. Ce sont des cellules qui transmettent une longueur d'onde particulière en impulse neural. Ces cellules sont appelées soit des cônes, qui sont les cellules responsables de la transmission des couleurs et de la vision diurne. Donc la façon dont vous maintenant regardez ces images, en fait, est entièrement basée sur la présence de cônes, de cellules en cônes. Et puis d'autres récepteurs qu'on appelle les bâtonnets, qui sont en fait des récepteurs utiles pour la vision nocturne. Il y a trois types de photorécepteurs en cône dans l'œil humain. Il y a un type qui est sensible à la lumière bleue, qui contient de l'opsine S et qui répond à une longueur d'onde d'à peu près 400 nanomètres. Donc c'est une protéine, l'opsine, qui de par sa structure va répondre à cette longueur d'onde et contribuer à envoyer un signal. Il y a d'autres photorécepteurs qu'on appelle les photorécepteurs M, les cônes M, qui voient la lumière verte et qui répondent à une longueur d'onde d'à peu près 450 nanomètres. Et puis les troisièmes sont les photorécepteurs qui contiennent de l'opsine L, donc les cônes L, qui voient la lumière rouge, donc entre 500 nanomètres et 700 nanomètres. Alors ça, c'est ce qu'on voit lorsque l'on coupe une rétine et qu'on regarde à l'intérieur. Et évidemment, la question fondamentale, c'est d'où sortent ces récepteurs? Comment les produit-on? Qui vient en premier? Comment maintient-on une stoichiométrie entre ces récepteurs? Un nombre de récepteurs qui est suffisant pour tout voir? Ce sont vraiment des questions totalement fondamentales. Et ce que l'on sait, c'est que la production de ces trois types de récepteurs en cône suit deux types de décisions de différenciation cellulaire. Premièrement, il y a une décision qui dit soit je fais un photorécepteur bleu, soit je fais un photorécepteur rouge-vert, donc qui plus tard sera soit rouge, soit vert, mais qui pour l'instant est rouge-vert. Donc il y a une cellule souche, une cellule qui est capable de produire des récepteurs, qui va produire ces récepteurs, et qui à un moment donné va prendre cette décision, je pars ici ou je pars là. Et puis plus tard, il y a une deuxième décision de différenciation, cette cellule qui sera soit rouge, soit verte, va décider soit d'aller dans le vert, soit d'aller dans le rouge. Alors comment étudier ce mécanisme qui évidemment est essentiel à comprendre? Eh bien, ce groupe de Bob Johnston a poussé le protocole qui était dérivé des travaux de Yoshiki Sasai, dont je vous ai déjà parlé à maintes reprises, en fait, pour établir un protocole de pousse d'organoïdes de rétine qui est absolument étonnant, et je vais vous montrer ici les résultats. Donc j'ai mis ici la photo de Yoshiki Sasai, parce que ce protocole est très inspiré de son étude, qui est une étude fondatrice dans ce domaine. Alors ce que vous voyez là, c'est des cellules embryonnaires, des cellules souches embryonnaires humaines. C'est assez intéressant de voir que ces cellules sont tout de même un peu différentes, ne serait-ce qu'à l'aspect, la morphologie. Ce sont des cellules qui sont un peu différentes des cellules souches de souris, en fait. Et curieusement, les conditions de culture ne sont pas identiques. Il a fallu adapter des protocoles. C'est pour cela que ça a pris plusieurs années, en fait, avant de pouvoir cultiver des cellules souches embryonnaires humaines de façon correcte. Voilà à quoi elles ressemblent. Lorsque vous prenez ces cellules et que vous les mettez dans des conditions de culture que j'ai décrites la semaine passée pour les organoïdes de rétine, je ne vais pas revenir là-dessus, culture en suspension avec un agitateur, voilà ce que vous obtenez après un jour. Les cellules commencent à se mettre ensemble. Après 4 jours déjà, vous voyez apparaître des structures. Alors là, ce que je vous montre, c'est les travaux de Bob Johnston et de son laboratoire. Et puis, vous voyez, au bout de 8 jours, des structures très nettes qui apparaissent, des sortes de collections de rétines. Alors, ce que l'on peut faire à ce stade, c'est de les disséquer. On va en prendre une en particulier, et puis la cultiver séparément. Et puis, on va la cultiver jusqu'à 43 jours, et puis jusqu'à 280 jours, et puis jusqu'à pratiquement une année, en fait. Ce sont des organoïdes, il faut être un peu patient. Mais si on prend le temps de les cultiver de façon correcte, on obtient des rétines qui sont vraiment extraordinairement bien organisées. Et je vous montre ici une section de cette rétine à 291 jours, avec des colorations qui vous montrent la présence de cônes bleus et de cônes rouge-vert. Donc, la première décision s'est déjà déroulée. Pas encore la deuxième, mais la première décision s'est déjà passée. Il y a déjà eu une différenciation de ces cellules souches, ces cellules souches neuronales, photorécepteurs, en photorécepteurs de type S et LM. Alors, à partir de là, bien entendu, on peut faire toute une série d'expériences qui seraient rigoureusement impossibles à faire in vivo. Par exemple, est-ce que ces types cellulaires apparaissent en même temps? Est-ce que l'un apparaît avant l'autre? Eh bien, il suffit de reprendre ces organoïdes, de regarder jour après jour, étape après étape. Et puis, en faisant ça, ce laboratoire s'est aperçu qu'en fait, les cônes bleus qui expriment de la S-opsine arrivent bien avant les cônes rouge-vert qui expriment la LM-opsine. Comme si les cellules à la base de cette différenciation, le destin de ces cellules, c'est effectivement de produire des cônes bleus. Et puis au bout d'un moment, se passe quelque chose, une molécule arrive, qui fait que plutôt que de produire des cônes bleus, on va passer à la production de cônes rouge-vert. Alors cette molécule, il y avait des suspicions pour des raisons différentes auxquelles je ne veux pas rentrer, mais il se trouve que cette décision probablement est prise par la présence d'hormones thyroïdiennes et de leurs récepteurs. Quand le récepteur nucléaire de l'hormone thyroïdienne T3 est présent, il semble que la décision part vers la différenciation de ces photorécepteurs rouge-vert. Lorsque le récepteur est absent, donc il n'y a pas de signalisation par l'hormone thyroïdienne, il semble que la différenciation part vers la fabrication de photorécepteurs bleus. Autrement dit, on est dans un système où peut-être ce qui se passe, c'est que tant qu'il n'y a pas de signalisation par les hormones thyroïdiennes, on produit des récepteurs bleus. Et puis, un moment, quelques jours, quelques semaines après le début de cette différenciation, arrive une hormone thyroïdienne, qui en fait est de la T3, ce n'est pas de la T4, et cette hormone va conduire vers le shift et la production de photorécepteurs rouge-vert. Alors, comment faire ça? Comment vérifier, comment démontrer que c'est effectivement le cas? Bien, les organoïdes peuvent le faire. Parce que l'on peut, sur ces objets biologiques, mettre en œuvre, en fait, les deux grandes approches que la génétique nous a apprises pour évaluer la fonction d'un gène ou d'une molécule, à savoir la perte de fonction et le gain de fonction. Dans n'importe quel contexte que vous vous trouviez, si vous avez envie de connaître, de voir l'effet d'une molécule particulière, il y a deux façons de faire. Soit vous l'enlevez du système et vous regardez ce qui se passe, c'est une perte de fonction. Soit vous bourrez le système de de cette molécule. Vous l'exprimez partout à des très hauts niveaux. C'est un gain de fonction. Okay. Alors, c'est ce qui a été fait par ce laboratoire. Alors, perte de fonction, bien, c'est assez simple, puisque ces organoïdes sont produits à partir de cellules ES. Donc, il suffit d'inactiver ce gène particulier dans des cellules ES. On n'est pas là en présence d'une inactivation compliquée dans un animal. Il faut simplement aller casser ce gène dans les cellules ES. Alors cela aujourd'hui se fait par l'utilisation de ce fameux système de CRISPR-Cas9 avec pas mal de facilité, bien que il y a un petit problème qui se présente, auquel vous aurez sans doute pensé, c'est qu'il faut absolument casser les deux copies de ce gène, puisqu'évidemment, dans les cellules ES, on va avoir deux copies. Donc il va falloir tout de même travailler un peu pour isoler des cellules qui auront les deux copies cassées. Et puis une fois que vous avez ces cellules qui ont les deux copies cassées, eh bien, vous produisez des organoïdes de rétine, et en fait, voilà, vous allez remarquer que ces organoïdes ne font que produire des photorécepteurs bleus, ils sont totalement incapables de produire des photorécepteurs rouge-vert. Donc effectivement, tant qu'il n'y a pas de signalisation par cette hormone thyroïdienne, on ne produit pas de photorécepteurs rouge-vert. Par contre, si vous pipetez simplement dans le milieu d'organoïdes normaux, de rétine, on pipette un peu d'hormones thyroïdiennes, de la T3, eh bien vous voyez maintenant que tous les photorécepteurs passent à l'état rouge-vert. Et c'est de ce genre d'études que l'on peut raisonnablement conclure, en fait, qu'effectivement la balance entre ces récepteurs de type bleu et ces récepteurs de type rouge-vert qui nous permettent tout de même de voir en couleur, en fait, est très probablement due au dosage d'hormones thyroïdiennes qui arrive pendant le développement dans notre rétine et qui vont produire ces différents types de photorécepteurs. Ça, c'est l'exemple que je voulais vous montrer. C'est un exemple assez simple que je voulais vous montrer sur l'utilité des organoïdes humains. Et j'ai mis ici cette image qui est beaucoup trop compliquée pour que vous la lisiez, mais elle sera sur le site du collège si vous voulez rentrer un peu dans les détails. Mais c'est simplement un état des lieux relativement récent. C'est une revue de Hans Clevers qui date de 2018 et qui fait une liste de pratiquement tous les organoïdes humains qui ont été dérivés jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui est possible de faire, en quelque sorte. Et vous voyez que j'ai mis ici le code de couleur. Vous avez le type d'organoïde, par exemple, poumon. Vous avez en dessous la façon dont ces organoïdes sont dérivés, selon que les cellules sont dérivées d'un poumon adulte, de cellules ES, de cellules IPS, de cellules fœtales. Vous avez en dessous leur utilité potentielle pour étudier les interactions hôtes pathogènes, leur utilité potentielle pour étudier les modèles de pathologie, et puis en dessous, dans certains cas, l'utilité de ces organoïdes pour étudier des phénomènes cancéreux. Donc si vous souhaitez avoir une sorte d'aide-mémoire sur ce que l'on peut faire avec ces organoïdes chez l'adulte, allez chercher cette image sur le site. Les organoïdes humains, évidemment, alors là encore, n'essayez pas de lire cette image, c'est une image que j'ai surtout mis comme documentation. Ils ont plusieurs avantages, et je les ai mentionnés pratiquement tous. Premièrement, le fait que ces objets biologiques soient très très proches de conditions physiologiques in vivo. Quand on regarde certains de ces organoïdes, on se dit qu'on a vraiment affaire à un mini-organe en culture. Alors évidemment, cet organe n'est pas intégré dans un système global, et c'est une des limitations qui est mentionnée. Mais dans le fond, ça peut aussi représenter un avantage, dans le sens, il est listé dans cette liste d'avantages ou de points positifs, dans le sens où ces mini-organes ne sont pas colonisés par d'autres types cellulaires, ce qui est toujours le cas quand l'on travaille in vivo. Si on veut, par exemple, isoler un morceau de poumon, on va systématiquement être contaminé par d'autres types cellulaires, ne serait-ce que des cellules sanguines, des cellules du système immunitaire, qui vont se trouver dans cet objet. Par conséquent, si l'on fait des analyses moléculaires ou des analyses biochimiques, on aura toujours un mélange de différentes choses, alors que dans le cas des organoïdes, on peut tout de même réduire un peu ce mélange, puisqu'on sait d'où on part, et on arrive à en contrôler relativement bien les conditions. Ces organoïdes peuvent être propagés pour un très long temps, des années apparemment, sans accumuler, et c'est une observation intéressante, sans accumuler de modifications génétiques. Il semble que ces cultures soient relativement résistantes à des mutations spontanées, donc le génome semble relativement stable. Ils peuvent être dérivés de sources multiples, bien sûr. Et puis surtout, je dirais vraiment un des avantages principaux, j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, c'est qu'en partant de très peu de cellules, on peut finir avec énormément de cellules. Et ça, d'un point de vue biologique, du point de vue de l'analyse chimique, biochimique, moléculaire, c'est évidemment quelque chose de très appréciable. Alors, il y a certaines limitations qui sont listées ici, je ne vais pas entrer dans le détail, mais je dois dire qu'il n'y a que trois limitations pour moi qui vont être difficiles à résoudre. Les autres, c'est probablement des questions technologiques, et probablement que dans 5, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, on arrivera à trouver des solutions. Une des limitations essentielles, évidemment, c'est que chaque fois que l'on déconnecte un objet biologique de son environnement immédiat, on va avoir des effets. Et il faudra les évaluer. Un organisme, c'est précisément l'addition de différents organes ensemble, qui se développent ensemble, et on ne peut pas imaginer avoir une collection de parties qui ne fasse que représenter le tout, en fait. Donc il y a là-dedans quelque chose qu'il faut vraiment garder en mémoire. Tous ces tissus, toutes ces cellules se développent dans des niches particulières, avec des qui sont en contact avec des tissus particuliers, avec des cytokines particulières, et tout cela participe à la morphogenèse normale. Alors, l'utilisation de ces organoïdes chez les humains, là j'ai remis une image simple avant de passer aux choses un peu plus compliquées. Bien sûr, une utilité de recherche fondamentale, et on va le voir dans quelques minutes sur les organoïdes intestinaux. Et puis une utilité qui est encore balbutiante, mais qui commence à émerger dans des systèmes d'études cliniques. Par exemple, on peut obtenir des organoïdes à partir de patients. Ça commence à se faire beaucoup, je vous en montrerai un exemple tout à l'heure. On peut étudier les mécanismes pathologiques. On peut, comme je l'ai mentionné, essayer de faire des criblages pour trouver des nouvelles molécules. Et puis un autre aspect qui est de plus en plus intéressant, peut-être l'idée d'utiliser ces organoïdes pour essayer d'adapter des traitements particuliers pour un patient particulier, ce qui participerait à ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine de précision, ou la médecine personnalisée, ou pour voir d'abord sur des organoïdes comment en fait le patient répondrait en quelque sorte à tel ou tel médicament, dans le cas où pour avoir le choix entre différents traitements, eh bien, peut-être regardons sur les organoïdes, si on a de la mort cellulaire, si on a des dérivés redox, ou peu importe. D'accord ? Et puis on pourrait sélectionner le traitement peut-être le plus approprié. C'est une piste qui est à explorer et qui, évidemment, est explorée pour des raisons que vous comprenez bien. Et puis finalement, alors cette piste de la thérapie génique, qui est une piste extrêmement intéressante, et là encore, je vous en montrerai un petit exemple tout à l'heure, l'idée étant de se dire, puisque ces organoïdes sont tellement similaires à des organes, pourquoi ne pas essayer de les réimplanter? Pourquoi ne pas essayer de les remettre, dans le cas des organoïdes intestinaux, de les remettre dans un endroit où l'intestin a été lésé, par exemple? Et puis, tant qu'à faire, est-ce qu'on ne pourrait pas les modifier avant de les remettre, les corriger, les augmenter, dans le cas où il y aurait un besoin de supplémenter quelqu'un avec quelque chose qu'il ne peut plus produire. Ce qui serait typique, souvenez-vous, on en a parlé dans le cas des organoïdes de pancréas et des cellules bêta, est-ce qu'on ne pourrait pas réintroduire ces organoïdes dans un pancréas atteint, par exemple, par un diabète de type 2. Voilà, ça, c'est les généralités que je souhaitais vous donner sur les organoïdes humains. Et maintenant, j'aimerais passer à cette étude de ces trois types d'organoïdes dont je vous ai parlé. Alors, je vous remonte cette image. Et en fait, j'aimerais vous parler de ces trois types d'organoïdes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les organoïdes intestinaux. Et puis, la semaine prochaine, je vous parlerai de ces mini-brains, ces fameux mini-cerveaux. Et puis un nouveau type d'organoïdes qui a été produit il n'y a pas si longtemps, qui sont les organoïdes hépatiques, extrêmement intéressants. Alors, les organoïdes intestinaux sont vraiment parmi les premiers à avoir été produits, juste après les tentatives de Yoshiki Sasai sur les organoïdes de rétine, en fait. Et je dirais que c'est principalement le laboratoire de Hans Clevers qui a travailler dans ce domaine, et vous allez voir plusieurs de ces publications mentionnées. Ce que j'aimerais faire, c'est vous parler un peu de l'origine, donc de la publication originale, de l'origine de ces organoïdes, de leur utilisation en recherche fondamentale, et puis finalement de leur utilisation en recherche médicale, en particulier sur une pathologie qui s'appelle l'épithélium de Barrett. Une pathologie extrêmement intéressante où l'œsophage, en fait, est transformé en tissu épithélial. Et on ne comprend pas vraiment pourquoi. Voilà. Alors, en guise de rappel, je vous remontre une fois de plus la structure très générale de l'intestin grêle, qui, souvenez-vous, est fait de montagnes et de creux, de villosités et de cryptes, ces cryptes de Lieberkühn, vous voyez ici. Toute cette paroi, donc l'intestin se trouverait, le centre de l'intestin est là, n'est-ce pas, totalement couvert de mucus, qui est donc sécrété par les cellules en gobelet, les goblet cells. Et au fond de ces cryptes, on trouve des cellules qui sont des cellules souches de l'intestin grêle, qui sont ces fameuses cellules positives pour ce gène particulier qui s'appelle LGR5. J'ai vraiment insisté sur ce nom, qui est un gène qui marque ces cellules souches. Autrement dit, si vous voyez l'expression de LGR5, au fond d'une crypte, c'est une cellule souche. Cellules souches, nous avons défini la semaine passée, juste pour vous rappeler, pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là, ce sont des cellules qui sont capables de repopuler l'intégralité de l'épithélium intestinal, donc de donner naissance à tous les types cellulaires, donc les entérocytes, les cellules endocrines, les cellules de goblet et les cellules de Paneth. Et puis à côté de ces cellules souches ici, vous voyez ces fameuses cellules de Paneth dont on va reparler dans quelques minutes. Voilà, je vous parlais d'un escalier roulant la semaine passée. Je pense que c'est une bonne image en fait. Il faut vraiment imaginer cet épithélium intestinal comme étant constamment en train de se renouveler, un peu comme un escalator, avec ces cellules qui bougent, qui sont enlevées, qui sont mortes, qui sont dégagées, d'autres cellules qui arrivent, qui montent des cryptes, colonisent l'intérieur, qui montent sur les villi, etc. Ces cellules de Panette, ces cellules LGR5, en fait, sont décrites il n'y a pas si longtemps, dans le fond. Vous voyez ici, en 1974, où on décrit ces cellules CBC pour des cellules de base columnaire de la crypte, donc des cellules en colonne qu'on trouve en bas, à la base de la crypte. Ce sont ces cellules qui sont maintenant positives pour LGR5. Vous les voyez là. Ça, c'est en microscopie électronique, à balayage. Vous en voyez une ici. Et cette cellule est flanquée de toutes cellules un peu plus sombres ici, qui sont les cellules de Panette. Et je mentionnais déjà la semaine passée qu'en fait, ces cellules de Panette semblent avoir un rôle, une sorte de rôle de soutien à ces cellules souches. Ce sont des cellules qui sont vraiment en contact intime avec ces cellules positives pour LGR5. Comme vous le voyez là, ici, vous avez des cellules positives en GFP pour LGR5. Et puis, entre ces cellules, vous voyez ici deux magnifiques cellules de Panette. Ces cellules LGR5 positives, que vous voyez là, sont détectées pendant toute la vie de l'intestin. Vous en trouvez à peu près une quinzaine par crypte, et elles ont un index mitotique se divise à peu près toutes les 24 heures, ce qui, chez les mammifères, est quand même assez rapide. C'est des cellules qui passent beaucoup de temps à se diviser précisément pour recoloniser et refournir tous les types cellulaires à l'intestin. Ce que vous voyez là, c'est important pour ce que je vais vous dire tout à l'heure, en fait, c'est de la GFP, c'est de la fluorescence. C'est donc une souris qui a une copie du gène LGR5 qui fabrique une protéine fluorescente. Il y a une copie normale, donc la souris a un intestin parfaitement normal. L'autre copie fabrique de la fluorescence. Donc ce que vous voyez là, en fait, ce sont des cellules, puisque la fluorescence ne passe pas d'une cellule à l'autre, ce sont des cellules qui expriment le gène LGR5. Voilà, après de nombreuses études, le même groupe de Hans Clevers est en fait arrivé à une sorte d'hypothèse générale sur la génération de ces organoïdes intestinaux, et notamment sur un des points essentiels qu'on a beaucoup discuté, qui est ce que l'on appelle le symmetry breaking, donc la décision originale qui va créer une asymétrie, d'où tout va démarrer. Et l'idée est la suivante. Vous avez ici un épithélium, qui sera un futur épithélium intestinal, et une cellule, que vous voyez en bleu ici, qui plus tard sera une cellule de Panette. Une de ces cellules va se mettre à fabriquer cette protéine que l'on appelle WNT, qui est une protéine extrêmement fameuse, qui fait partie d'une voie de signalisation. Donc c'est une des 15 ou à peu près 15 façons dont les cellules ont de se parler entre elles, une protéine qui va être sécrétée et qui va aller signaliser à d'autres cellules. Cette protéine va induire les cellules qui sont adjacentes à activer un récepteur, une molécule qu'on appelle les éphrines, et il va y avoir un jeu d'activation, de répression entre des éphrines et leurs récepteurs, qui fait que cette partie de l'intestin va se mettre à bourgeonner. Il va y avoir division cellulaire, il va y avoir des pressions, et ça va bourgeonner, et c'est le début, selon Clevers, de la formation d'une crypte. Donc évidemment, l'événement critique, c'est le début de cette activation de WNT, et la façon dont WNT va signaliser à ses cellules adjacentes. Alors, si vous focalisez un peu sur cette cellule bleue qui sera plus tard une cellule de Panette, Et cette cellule rose, qui plus tard sera une cellule LGR5 positive, voilà ce que vous voyez, c'est un peu compliqué, mais ici vous avez une cellule de Paneth et une cellule LGR5 positive. Ce carré-là, c'est cette vue. Ici vous avez la cellule de Paneth. Ici vous avez la cellule LGR5 positive. Et vous voyez que cette cellule de Paneth fabrique Wnt qui va signaliser à la cellule adjacente, de la même façon qu'elle fabrique un ligand pour la voie de signalisation Notch, c'est un ligand qui s'appelle Delta, c'est donc une protéine qui sort de la membrane et qui va aller se mettre dans un récepteur qui est sur la cellule d'à côté, ça va déclencher une série d'événements, Delta. Et puis aussi ici, FGF, qui est encore une molécule de signalisation, donc vous voyez que cette cellule de Paneth transfère énormément d'informations aux cellules qui lui sont associées. Vous voyez ici cette molécule qui n'est pas directement impliquée dans la transmission du signal Wnt et qui est LGR5, mais qui est impliquée dans cette transmission. On le voit plus tard ici, peu importe les détails, c'est une cellule qui fait partie de la voie de signalisation Wnt, mais qui n'est pas directement le récepteur de Wnt. C'est cette molécule particulière qui est utilisée pour dire quand elle est présente, c'est une cellule souche. D'accord ? Le papier original du laboratoire de Hans Clevers dissèque des cryptes qui sont soit des cryptes fœtales, soit des cryptes adultes, comme c'est ici le cas, me semble-t-il, et cultive ces cryptes. Et puis, vous voyez ici, 4 jours, 5 jours, vous commencez à avoir des bourgeonnements de toute une série de cryptes. Après 14 jours, vous avez cette image-là. Et lorsqu'il fait cette expérience avec des souris qui ont cette fluorescence dans le gène LGR5, il s'aperçoit qu'en fait, en prenant un de ces organoïdes intestinaux, il a au bout de chacune de ces pseudo-cryptes, en fait, l'expression de LGR5. Donc, à partir d'une crypte, il peut en reproduire des tas. Ça, c'est le papier original. Et comme ces cellules sont marquées par une fluorescence, ils ont la possibilité de les trier. Alors là, il faut que je fasse une petite parenthèse pour expliquer à ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec cette approche, mais lorsque vous avez des cellules, un mélange de cellules qui sont fluorescentes et des cellules qui ne le sont pas, eh bien vous pouvez les pipeter dans une machine qu'on appelle un trieur de cellules. Ces cellules vont passer au travers d'un faisceau lumineux et les petites portes vont s'ouvrir soit à gauche, soit à droite et les cellules vont se trier de façon à ce qu'à la fin de l'opération, vous avez une population de cellules fluorescente et une population de cellules non fluorescentes. C'est un trieur de cellules. Donc, ce groupe se dit, puisqu'on a ces cellules fluorescentes, trions-les. Et c'est ce que vous voyez ici, sur cette image. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que vous voyez là, c'est en fait la distribution de différentes populations cellulaires. Vous avez des milliers de cellules là-dedans. Et vous avez une grande population ici, qui est négatif pour la GFP. Ce n'est pas celle que vous voulez. Vous avez une population ici qui est très fortement fluorescente. C'est celle que vous voulez. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont prendre ce tube, ils vont avoir en tube une population de cellules en suspension qui sont très hautement fluorescentes. Mais ils remarquent qu'il y a une autre population ici, qui est une population intermédiaire, qui est peu fluorescente. Qui est un peu moins fluorescente, donc ils appellent à fluorescence basse. Et donc ils vont isoler ces deux populations de cellules. Donc ils se retrouvent avec une population de cellules très fluorescente, autrement dit des cellules qui expriment beaucoup de LGR5, et puis une population de cellules qui est un peu moins fluorescente, qui sont soit des cellules un peu artefactuelles ou qui expriment peu de fluorescence, peu de LGR5. Et l'idée, la question qui se pose, c'est est-ce que ces deux populations de cellules peuvent faire des organoïdes intestinaux avec la même efficacité? Et c'est là qu'ils mettent au point un protocole pour développer ces organoïdes à partir de cellules uniques. Donc la première chose que vous voyez là, c'est on prend les cellules à très haute fluorescence et on les étale sur une boîte. Et vous voyez qu'après un certain nombre de jours, on a beaucoup de ces organoïdes intestinaux qui poussent. Par contre, quand vous faites la même expérience en prenant des cellules qui sont moins fluorescentes, autrement dit, qui expriment moins de LGR5, vous voyez qu'il n'y a pratiquement aucun organoïde qui pousse. Conclusion, effectivement, ces cellules LGR5 sont les cellules souches, elles sont les seules cellules qui sont capables de repopuler l'épithélium intestinal. Vous allez voir dans quelques minutes qu'en fait, c'est une conclusion qui aujourd'hui n'est plus vraiment d'actualité. Et vous allez le voir, en fait, au travers de deux expériences récentes qui, en grande partie, sont dues à des développements technologiques. Et je mentionne ça parce que c'est très souvent le cas. En fait, on arrive à des conclusions extrêmement fermes. Et puis, en poussant un peu la technologie, en mettant au point de nouveaux outils, on s'aperçoit que finalement, c'est un peu plus compliqué. Donc, le laboratoire de Clevers essaye de produire ces organoïdes à partir de ces cellules GFP basse fluorescence, vous voyez qu'il y en a très peu qui poussent. Haute fluorescence, beaucoup qui poussent. Ici, vous avez une quantification, vous avez leur allure, beaux organoïdes. Par conséquent, pour faire des organoïdes intestinaux, il faut que ces cellules soient LGR5. Il faut démarrer de cellules qui sont LGR5 positives. Vous avez ici cette image absolument magnifique qui montre le développement. Alors, je vous l'ai déjà montré à l'occasion quand je vous parlais de ce potentiel invraisemblable d'auto-organisation de ces cellules, hein, où l'on part vraiment d'une cellule unique, alors qui dans ce cas précis est une cellule LGR5 positive, fluorescente à haut degré. Et vous voyez qu'en 5-6 jours, on commence à avoir des structures qui apparaissent, et puis en moins de 2 semaines, on a des tas de cryptes qui commencent à pousser dans tous les coins. Cellule unique. Si l'on applique sur ces organoïdes les marqueurs cellulaires habituels pour les types de cellules intestinales, vous allez voir qu'on va trouver de la viline, qui est en fait un marqueur spécifique aux entérocytes. Vous allez avoir de la mucine dans d'autres cellules, qui est évidemment un marqueur extrêmement spécifique pour les cellules en gobelet, les gobelets de Sels, donc qui fabriquent le mucus. Vous allez avoir du lysozyme, un marqueur extrêmement spécifique pour les cellules de Paneth, on en a beaucoup parlé. Et puis vous allez avoir de la chromogranine, qui est un marqueur qui est spécifique pour les cellules entéro-endocrines. D'accord ? Ça, c'était vraiment le papier fondateur de ce domaine des organoïdes intestinaux. Et comme d'habitude dans ces publications, c'est assez intéressant d'aller voir dans les matériels et méthodes. Et je vous ai mis ici juste un exemple pour vous montrer que c'est souvent intéressant d'aller voir dans les détails. Vous voyez en fait que dans ce mix, dans ce milieu, c'est un milieu compliqué qui probablement résulte de beaucoup d'essais différents. Il y a une molécule que j'ai entourée en rouge ici qui s'appelle Noggin. Noggin est un inhibiteur d'une autre voie de signalisation qui s'appelle BMP, qui, elle, est active en haut de l'épithélium pour empêcher les cellules souches de se développer dans la partie haute de l'épithélium. Donc, on a un gradient de BMP qui vient d'en haut et qui, en fait, dit à ces cellules, les cellules souches, c'est en bas. Hein, on va inhiber la production de ces cellules dans la partie haute. Donc, ces cellules vont se diviser en bas, puis monter. Alors évidemment, si vous avez cette voie de signalisation dans votre système. Vous n'allez pas produire de cellules souches. Et donc, c'est pour cette raison que les auteurs introduisent un inhibiteur de cette voie BMP, qui est très connu, qui s'appelle Nugin. Tout cela pour vous montrer, en fait, que, encore une fois, on est vraiment dans une recette de cuisine où on va essayer différentes choses. On va mettre des activateurs, des inhibiteurs. On va essayer de pousser ça, d'arrêter ça, pour un jour trouver la bonne recette qui va nous produire des beaux organoïdes. Et puis ici, vous voyez que, encore, ils vont trouver une solution pour pousser ces organoïdes en matrigelles. Souvenez-vous, matrigelles, hein, les queues de rongeurs bouillies dans la soude pour faire une sorte de gel peu déterminé, mais qui est extrêmement organique et actif, un matrigel, qui est complémenté avec un peptide JAGD1. Alors JAGD, c'est un autre ligand de la voie Notch. Je vous parlais de delta qui signalise. Un autre ligand, c'est JAGD. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils poussent ces organoïdes sur un gel qui a des molécules signalisantes. Donc, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En quelque sorte, ils essayent de reconstituer la niche endogène qui fait que ces cellules peuvent se développer, rester cellules souches et produire ces cryptes in vitro. Une expérience à l'époque qui est faite par ce groupe extrêmement intéressante, c'est de voir si ces organoïdes peuvent coloniser un intestin qui a été attaqué soit par une chirurgie, soit par une infection, où l'épithélium a disparu. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils induisent ce type de pathologie. Et puis, ils vont greffer ces organoïdes intestinaux à cet endroit où l'épithélium a disparu. Et puis, curieusement, ces organoïdes vont recréer premièrement un grand épithélium, une couche épithéliale, et rapidement, cette couche épithéliale va s'organiser et va régénérer, en fait, cette partie de l'intestin. Et je pense que c'était la première évidence, en fait, d'une utilisation potentielle de ces organoïdes dans un but de remplacement, de régénération où il semble qu'on pourrait éventuellement un jour réintroduire des organoïdes sur des endroits, par exemple dans le côlon, je vais vous en parler dans une minute, des endroits qui ont été atteints par des gestes chirurgicaux ou autres. Ça, c'est l'état des lieux il y a encore quelques années. Et maintenant, j'aimerais vous présenter une publication qui, en fait, n'est pas encore sortie. Elle a été publiée online il y a une dizaine de jours. Et elle n'est pas encore accessible en version imprimée. C'est une publication qui sort du laboratoire de Prisca Liberali, qui est une jeune chef de groupe à l'Institut Friedrich Mischer à Bâle, et qui a fait un travail absolument magnifique sur ces organoïdes intestinaux, et vous allez voir qui est un travail assez surprenant, compliqué. Je vais essayer vraiment de le simplifier au maximum. La question que se pose ce laboratoire, c'est que depuis quelques années, il semblerait qu'il y ait quelques évidences comme quoi des cellules qui ne sont pas LGR5 positives, qui ne sont pas ces fameuses cellules souches, puissent tout de même générer des organoïdes. Et donc, il y a des questions qui se posent dans le milieu. Est-ce que vraiment il n'y a que ces cellules souches ou bien est-ce qu'il y a d'autres cellules qui peuvent le faire? Et ce laboratoire décide d'attaquer cette question d'une façon extrêmement intelligente en faisant deux choses. Premièrement, en produisant des souris qui ont LGR5 avec une fluorescence, comme ça avait été le cas pour le travail de Clevers. Simplement pour avoir ce stock comme stock témoin. Et puis, comme deuxième stock, ils produisent une souris qui a le promoteur de LGR5. Au lieu de contrôler la production d'une protéine fluorescente, contrôle la production d'une toxine diphtérique qui va donc tuer toutes les cellules qui vont commencer à exprimer ce gène. Alors évidemment, c'est une approche qui est délicate, qui est utilisée depuis de nombreuses années dans la biologie du développement, surtout en neurobiologie en fait, qui est délicate parce que il faut pas trop en mettre, hein, faut pas tuer les cellules qui sont à côté, c'est une toxine qui est tout de même une toxine puissante. Mais l'idée est simple, c'est que de cette façon, on délète, on enlève toutes les cellules qui, d'une façon ou d'une autre, expriment LGR5. Et l'idée, la question que se pose ce laboratoire, c'est est-ce que dans ce stock, on va pouvoir dériver des organoïdes? Et si on arrive à dériver des organoïdes, est-ce qu'ils vont ressembler à des bons organoïdes dérivés de cellules LGR5 positives? Et en fait, le résultat, je pense que vous en doutez, c'est que à la fois les cellules qui sont LGR5 positives et les cellules qui sont LGR5 négatives, c'est-à-dire les cellules après avoir mis la toxine, sont capables de produire des organoïdes qui sont pratiquement les mêmes. On ne peut pas faire vraiment de différence à l'œil entre ces organoïdes produits par des cellules souches et des organoïdes produits par on ne sait pas quoi, en fait. Donc, première évidence que peut-être, finalement, il n'y a pas que les cellules LGR5 au sein des cribles de Lieberkühn qui sont capables d'avoir une activité souche. Autre développement extrêmement intéressant de ce laboratoire, c'est que au lieu de regarder ces organoïdes avec les yeux, ce groupe a passé des années à développer une microscopie particulière qu'on appelle en light sheet microscopy, qui est une microscopie extrêmement relativement simple dans le principe, compliqué dans la mise en œuvre. Et donc, toute la prise d'image et l'interprétation est automatique. Donc, on n'a plus de biais, on n'est plus en train de chercher peut-être les images qui sont peut-être meilleures que d'autres, ce qui est un biais totalement inconscient que nous avons tous, finalement. Là, ce sont des ordinateurs, des logiciels, des algorithmes qui vont balayer les puits, les petits puits où les organoïdes poussent, et vont faire des scores. Donc c'est une étude qui est totalement unbiased. Et le résultat est assez inattendu. Vous voyez qu'en fait, en absence de LGR5, vous avez des cellules de Paneth, vous avez des cellules de type LGR5 qui poussent bien entendu, mais dès qu'elles poussent, hop, elles meurent à cause de la toxine diphtérique, bien entendu. Okay. Mais les organoïdes sont pareils. À partir de là, ce groupe se dit, voilà, il semble que la décision du symmetry breaking, donc cette décision qui fait que soudainement cette couche épithéliale va avoir une asymétrie, va faire une crypte, cette décision apparaît à peu près au troisième jour de culture. Donc, ce qu'il décide de faire, c'est une analyse exhaustive au niveau cellulaire, de tous les ARN qui se trouvent dans ces cellules avant 3 jours, à 3 jours, après 3 jours. Alors, encore une fois, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas des biologistes moléculaires, les ARN, c'est ce qui va faire les protéines, c'est le résultat de l'activation du génome, en fait. Les gènes sont transcrits à faire de l'ARN, donc ça vous donne l'état d'une cellule, finalement. Alors, plutôt que de faire des séquences d'ARN sur les organoïdes entiers, ce qu'ils vont faire, c'est de faire de la séquence par cellule, c'est-à-dire de séparer les cellules sur des organoïdes de une cellule, de deux cellules, pendant ces 3 jours avant, puis au moment de la transition, puis après, et séquencer toutes ces cellules. Ils vont séquencer des milliers de cellules pour chaque point. Et ils vont demander à un ordinateur, à un algorithme, un logiciel, de faire des groupes de gènes. L'idée est très simple. Ce qu'on aimerait avoir, c'est tous les gènes qui, par exemple, augmentent les 2 premiers jours. Dites-nous, faites-nous un groupe et dites-nous les... Groupez-nous tous les gènes qui diminuent juste après cette transition, ce symmetry breaking. Or, donnez-nous tous les gènes qui augmentent juste avant, qui diminuent juste après, etc. etc. Okay, donc ça, c'est les questions qu'on peut poser au logiciel pour essayer de dégager des grandes tendances génomiques en se disant, voilà, juste avant l'individualisation de cette cellule, on voit soudainement ces 1800 gènes qui, hop, sont activés. D'accord ? Alors, c'est ce qu'ils font. Et puis, ils arrivent avec trois grands groupes de gènes. Alors là, franchement, ça ne vaut pas la peine de rentrer dans les détails, mais simplement, voilà la façon dont ça se présente. Vous voyez, en fait, si vous clignez un peu des yeux, vous mettez un peu de unfocus, cette fois, vous essayez d'empêcher vos récepteurs au bleu, au rouge et au vert de fonctionner de façon précise. Et vous voyez qu'il y a en fait un groupe de couleurs en haut, où ils sont tous bleus à gauche et rouges ici, un groupe en bas, où ils sont plutôt bleus à droite et rouges ici, et puis un groupe au centre, où ils sont plutôt... Vous voyez, il y a en fait trois grandes tendances dans cette représentation graphique. Et ça vous montre trois grands clusters de gènes, finalement. Alors, il y a toute une série de gènes qui sont peu exprimés jusqu'au troisième jour, et puis, hop, tout d'un coup, ils sont activés. Puis inversement, il y a un groupe de gènes qui est relativement exprimé de façon robuste avant le troisième jour, et puis, hop, ils descendent, okay, etc. Voilà, ça, c'est le type d'analyse qui est fait. Alors, la question qu'on va poser après ça, c'est tous ces gènes, on va prendre tous les gènes qui sont activés au moment de cette transition. Comment peut-on essayer de trouver une cause commune à leur activation? Imaginons par exemple qu'il y a une protéine maître, une protéine contrôle, qui va à un moment donné déclencher l'activation de tous ces gènes. Alors, ce qu'on voit, c'est l'activation de ces gènes, mais on ne connaît pas cette protéine. Donc, comment peut-on essayer d'associer ces clusters à une cause proximale? Trouver pourquoi ces gènes sont tous activés en même temps, pourquoi ces gènes sont tous diminués en même temps. Alors, pour faire ça, je vais me contenter d'un seul dataset. Pour faire ça, il raisonne de la façon suivante. Pour qu'un gène soit activé, il faut que ce gène ait une petite séquence d'ADN juste en amont, qu'on appelle une séquence promoteur ou une séquence enhancer, peu importe. Non, mais une séquence d'ADN sur laquelle va venir se fixer une protéine contrôle et dire « on démarre ». D'accord ? C'est le système classique d'activation de la transcription. Vous avez un gène avec une séquence, le gène ne fonctionne pas. Une protéine qui va arriver, qui va lier la séquence, et paf, ça démarre. D'accord ? Cette séquence, elle est spécifique à la protéine qui va se lier. Autrement, ce serait le chaos. Donc la question qui se pose est la suivante. Si nous prenons ces 1000 gènes, par exemple, qui sont activés, et qu'on regarde par un outil bioinformatique, les séquences qui sont en amont de ces 1000 gènes. Est-ce qu'on peut trouver une séquence commune? Est-ce qu'il y aurait-il une séquence qui pourrait suggérer que c'est la même protéine, en fait, qui va activer tous ces gènes d'un coup? D'accord? C'est ça, la base du raisonnement. Alors, ils font ça. Évidemment, ça demande des outils informatiques un peu de puissance informatique, mais c'est pas... Et en fait, ils s'aperçoivent que beaucoup de ces séquences reconnaissent deux protéines. Une, alors c'est des noms un peu barbares, une qui s'appelle FOS-like 1, et puis une autre qui s'appelle TED1. Alors, peu importe ce que c'est. Juste pour clarifier, ce sont donc deux protéines qui lient l'ADN, et ces protéines lient un motif particulier qui est connu, par exemple AACCGGTTTTAACCT. OK, voilà. C'est une séquence unique, pratiquement, dans le génome. La probabilité de trouver cette séquence est très basse. Et on trouve cette séquence devant énormément de gènes qui sont augmentés, dont l'expression est augmentée juste au moment de la transition, etc. Okay, donc on se dit, voilà, peut-être que ces deux gènes, ces deux protéines, les deux gènes, ces deux protéines qui sont produites par ces deux gènes, c'est pas, sont les protéines qui vont déclencher cet événement de symmetry breaking en régulant l'activité de tous ces gènes. Or, il se trouve que ces deux protéines font partie d'une voie de signalisation, encore une, mais une différente, qui s'appelle la voie HIPPO, pour des raisons pas nécessaires de préciser. Et ces deux protéines ont besoin, comme cofacteur, la même protéine qui s'appelle YAP. Alors un cofacteur, c'est très simple. Vous avez votre gène qui ne fonctionne pas, votre séquence de régulation, vous avez une protéine qui arrive, oui, elle lit, oui, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que la protéine vienne avec quelque chose d'autre, une autre protéine qui va déclencher. C'est un cofacteur. Le cofacteur n'a pas besoin d'être spécifique à la séquence, parce que les protéines sont spécifiques à la séquence. Le cofacteur a besoin d'être spécifique aux protéines qui vont être spécifiques à la séquence. D'accord ? Donc un cofacteur peut avoir une fonction beaucoup plus large. N'est-ce pas ? Alors ce YAP1 est une protéine qui est extrêmement intéressante. Cette voie de signalisation HIPPO est une voie qui est passionnante. Et encore une fois, c'est une diapo compliquée. N'essayez pas de rentrer dedans, mais... C'est une voie très particulière parce que c'est une voie qui est mécanosensible. C'est une voie de signalisation qui est impliquée dans certains types de cancers, dans l'apoptose, très souvent dans des situations où il y a des effets mécaniques sur les cellules. Alors cette voie, vous voyez ici avec l'exemple de ce gène TED1, cette protéine TED1, qui est une de ces deux protéines, TED, c'est pas, cette protéine va venir dans le noyau pour activer l'expression de gènes cibles. Cette protéine ne fonctionne qu'avec un cofacteur qui est cette protéine YAP. Cette protéine YAP ne rentre dans le noyau que si elle est déphosphorylée. Autrement dit, que si elle est un peu modifiée. À l'état normal, on la trouve dans le cytoplasme, modifiée, donc elle ne rentre pas dans le noyau. Donc les gènes sont silencieux. D'accord ? Qu'est-ce qui va induire la modification de cette protéine YAP ? Ce sont des complexes de protéines qui sont généralement associés aux liaisons intercellulaires. Et c'est là où se trouve vraiment le point intéressant. Vous voyez, je les ai mis là. C'est par exemple ce qu'on appelle les jonctions tight et les jonctions adhérence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Généralement, on imagine que les jonctions entre les cellules sont en fait des stickers, sont des trucs pour coller, pour que les cellules restent ensemble. C'est ce que j'ai appris, en fait, quand j'étais étudiant. Ce sont des jonctions qui permettent de coller. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Ce sont des jonctions qui, bien sûr, collent les cellules, mais qui, en plus, ont une fonction physiologique, c'est-à-dire qu'elles vont transmettre à l'intérieur des signaux, soit mécanosensoriels, soit des signaux, par exemple, si la cellule d'à côté va rentrer en apoptose, il va y avoir moins de pression. Tout ça va passer par l'intermédiaire de ces contacts qui vont signaliser, qui vont modifier cette protéine YAP, qui va dès lors rentrer dans le noyau, servir de cofacteur, activer la transcription. D'accord ? Donc la conclusion de cette étude, de ce laboratoire de Prisca Liberali, c'est que finalement, Wnt n'a pas grand-chose à voir dans cette histoire. Et vous avez remarqué que depuis un quart d'heure, je n'ai plus prononcé le le mot WNT ou le mot LGR5, en fait. Les organoïdes qui sont produits de cette façon, vous voyez que lorsque l'on surexprime YAP, ici, on ne peut pas produire d'organoïdes intestinaux, on va produire ce qu'on appelle des entérocytes, c'est-à-dire des espèces de boules d'entérocytes, uniquement. Donc, pas de symétrie breaking. À l'inverse, souvenez-vous, gain de fonction, perte de fonction. À l'inverse, quand on fait une perte de fonction de YAP, voyez ici, en traitant avec un inhibiteur, peu importe, mais perte de fonction de YAP, pareil. Pareil. On a une sorte de boule d'entérocyste, on n'a pas d'organoïde. Donc la présence de cette protéine YAP, la fonction de cette protéine YAP1 est absolument essentielle pour la production de ces organoïdes. D'accord ? D'où la conclusion de ce laboratoire, de Prisca Liberali, qui est qu'au début, on a cette cellule isolée qui peut être une cellule LGR5 ou qui peut être une cellule qui n'est pas une cellule LGR5, puisque les cellules LGR5 sont mortes dans ce système. L'événement de breaking the symmetry va en fait être dû à des concentrations légèrement différentes, aléatoires, de YAP, qui vont faire qu'une de ces cellules va se différencier des autres, pas se différencier, mais se différencier des autres, va dès lors activer la voie Notch, et c'est le début de ce discours entre les cellules, Notch, pas Notch, Notch, pas Notch, et on casse la symétrie. Donc, dans ce schéma, le point essentiel de l'interruption de la symétrie, c'est la voie hypo, c'est YAP, c'est pas du tout la voie WNT. Cependant, tout cela ne peut se faire qu'en présence de WNT. Les cellules LGR5 peuvent donner des organoïdes, mais en présence de WNT3A, en présence de WNT. Donc il faut qu'il y ait de WNT quelque part, ce qui explique probablement l'antagonisme apparent entre ces deux résultats qui peut-être n'en est pas un. S'il n'y a pas cette cassure de symétrie, si on inhibe la fonction de YAP ou qu'on l'exprime partout, on va avoir des entérocystes. Si on laisse YAP normal, on va avoir formation de ces organoïdes intestinaux. Et puis alors, cerise sur le gâteau, j'ai découvert ça la semaine passée, en fait, dans le TGV, en rentrant en Suisse, une nouvelle publication qui, là encore, n'est pas encore publiée, mais qui est disponible sur Internet, extrêmement intéressante, d'un groupe qui s'appelle le groupe de Kim Jensen, qui est à Copenhague, au Danemark. Et ce groupe, alors je ne vais pas vous ennuyer avec des expériences qui sont extrêmement intéressantes, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Je vous lis simplement trois phrases du résumé. Les cellules adultes intestinales, souches, etc. sont localisées, elles expriment les marqueurs LGR5, etc. Dans cette étude, nous montrons que toutes les cellules de l'épithélium intestinal, toutes les cellules de l'épithélium intestinal, autrement dit, les entérocytes, les cellules endocrines, toutes, okay, irrespectives de leur localisation ou de leur pattern de LGR5, contribuent activement au pool de cellules souches intestinales. D'accord. Toutes ces cellules sont capables, dans un contexte particulier, de contribuer au pool de cellules souches. Là, on ne parle même plus de cellules YAP positives ou de cellules WNT positives ou LGR5 positives. Toutes ces cellules peuvent le faire. Alors, la conclusion est extrêmement provocante. En plus, c'est etc., etc. Ce qui révèle que l'identité stem cell, donc le potentiel d'une cellule à être une cellule souche, à générer d'autres cellules et à produire les types cellulaires dont nous avons besoin, que cette identité est un caractère induit plutôt qu'une propriété hardwired, inscrite. Hein, ça veut dire que la capacité STEM est quelque chose d'extrêmement flexible, en fait. On peut transformer. Il faut quand même vous apercevoir, il faut quand même vous rendre compte que ça va à l'encontre de concepts extrêmement fondamentaux. Alors déjà, le cocktail de Yamanaka avait déjà mis un coup assez sérieux à l'idée que lorsque l'on part dans une voie de différenciation, eh bien, c'est quand même extrêmement difficile de revenir en arrière. Là, ils vont même plus loin. Ils disent que pratiquement chacune des cellules de l'épithélium intestinal est capable de participer au pool de cellules souches. Et alors, ils montrent un schéma qui est quand même extrêmement intéressant, parce que, bien sûr, dans les textbooks, dans les livres, on voit toujours ces images figées de l'épithélium intestinal, mais je vous mentionnais encore, au début de ce cours, cette image d'escalier roulant, hein, où toutes ces cellules bougent, où tout est, etc. Et en fait, il montre ce schéma qui, évidemment, a du sens, pas, où dans, très souvent, ce que l'on retrouve dans une villosité va peut-être, par le hasard des pressions, de ce qu'on mange, du transit, etc., va se retrouver en bas d'une crypte. Simplement par des questions de flexibilité du tissu épithélial, etc. Et dès que ces cellules vont se retrouver dans une position d'être une crypte, eh bien, elles vont adopter un destin de cellules de crypte. Alors, c'est quelque chose que je trouve très, très surprenant, et je me réjouis de voir ce qui va... les études complémentaires qui vont sortir à ce propos. Pour terminer ces organoïdes intestinaux, j'aimerais juste remontrer cette image qui est encore une fois tirée d'une revue de Hans Clevers, qui montre que comme on peut dériver ces mini-gottes, comme il les appelle, ces organoïdes épithéliaux intestinaux, à partir de situations adultes, on peut évidemment, et ça commence à se faire actuellement, les utiliser dans un milieu clinique, soit pour mettre au point des outils thérapeutiques, soit pour mettre au point des outils diagnostiques, qui est aussi extrêmement, extrêmement intéressant, soit comme outils expérimentaux. Et je vous montre ici une dernière étude que j'aimerais vous montrer aujourd'hui qui était publiée dans Gastroentérologie, qui est une étude plus clinique pour vous montrer à quoi il fait référence. Et c'est une étude dans laquelle ils ont essayé, il y a quelques années, de développer des organoïdes non pas d'intestin grêle, donc non pas de la partie antérieure de l'intestin, mais du côlon. Alors pour des raisons qui sont totalement évidentes, puisqu'évidemment, les pathologies du côlon, vous les connaissez, il y en a de nombreuses et très fréquentes. Et en fait, il y a deux choses intéressantes dans cette étude. Premièrement, les cas cliniques qui sont adressés, à la fois la possibilité de dériver des organoïdes de côlon et de dériver des organoïdes qui sont de l'épithélium de Barrett's, dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais y revenir dans une minute. Et puis deuxièmement, cette phrase de conclusion qui dit que l'étude de ces cultures, donc la mise en culture de ces cryptes de côlon, indique qu'il n'y a pas de restriction intrinsèque au potentiel de réplication de ces cellules souches adultes. C'est ce qu'on appelle le Hayflick limit, la limite de Hayflick. Mais évidemment, si toutes ces cellules sont capables de participer au pool de cellules souches, maintenant on comprend pourquoi il n'y a pas de restriction à ces cellules souches. Cette limite de Hayflick, en fait, c'est une... on appelle en français le phénomène de Hayflick, c'est finalement une sorte d'anticipation du nombre de fois qu'une population de cellules humaines peut se diviser avant d'arrêter toute division cellulaire. Alors, vous savez qu'il y a quelques années, il y a eu beaucoup de commentaires faits sur l'existence de ces télomères, donc ces parties distales des chromosomes chez les humains. On avait une petite illustration, peut-être vous la voyez en bas ici, ces télomères en rouge, qui, à chaque division cellulaire, seraient un peu rabotées, un peu comme une carte de bus où vous enlevez des tickets un peu à chaque tour, et puis quand vous n'en avez plus, ben la cellule s'arrête. Et à l'époque, c'était considéré comme un des marqueurs, peut-être même une des fonctions de ces télomères, étant de réguler le nombre de fois qu'une cellule pouvait se diviser, ce qu'on appelle la limite de Hayflick. Et en fait, ces cellules en culture semblent n'avoir aucune limite. C'est-à-dire, ce sont des cellules, vous avez vu, tout à l'heure, on peut les garder, un peu comme les cellules d'hydre que je vous montrais la semaine passée, les expériences d'Alfred Guirer, où on peut garder ces cellules pendant des années, elles se divisent. Elles ne semblent pas répondre à cette règle de Hayflick. Dans cette publication, Hans Clevers, il essaye de trouver une recette pour faire pousser des cryptes de colons. Et il y est arrivé, encore une fois, en tâtonnant un peu à gauche à droite. Alors l'idée, c'est de rajouter dedans des inhibiteurs de voies de signalisation. C'est un peu complexe et je ne pense pas que je vais trop m'attarder là-dessus. Mais sachez simplement que si vous utilisez une recette de cuisine avec de la vitamine B, du nicotinamide, qui probablement a un effet anti-inflammatoire, mais qu'on ne sait pas vraiment exactement pourquoi il faut mettre de la vitamine B. Mais il en faut. Donc lorsque vous mettez de la vitamine B, lorsque vous mettez des inhibiteurs, des MAP kinases, et d'une autre voie, qui s'appelle la P38, qui sont des voies qui, en fait, font pousser les cellules, donc peu importe. Quand vous rajoutez ces inhibiteurs au milieu, vous pouvez obtenir de très beaux organoïdes de colon, de très beaux organoïdes. Le colon, j'ai oublié de mentionner, a une structure quand même assez différente de la structure de l'intestin grêle, parce qu'il n'y a pas de villosité, il y a des cryptes, mais il n'y a pas de villosité. C'est vraiment la dernière partie de la digestion qui ne nécessite pas la présence d'un épithélium du même genre que celui de l'intestin grêle. Ces organoïdes de colon, en fait, sont très très similaires aux organoïdes d'intestin grêle, dans le sens où ils expriment tous les marqueurs des types cellulaires dont on a parlé, et je vais passer là-dessus rapidement, n'est-ce pas ? Donc vous avez des cellules de Goblet, vous avez des cellules qui sont aussi, qu'on trouve aussi dans la partie de l'épithélium du côlon. Mais ce à quoi je voulais en venir pour terminer, c'était dans cette même publication d'essayer de dériver des organoïdes de cet épithélium extrêmement curieux qu'on appelle l'œsophage de Barrett. Ce sont des patients qui ont des gènes qui, en fait, ont des bandelettes d'épithélium dans l'œsophage, généralement au niveau de la liaison avec l'estomac. Et vous voyez ici des exemples, c'est donc une vue à l'intérieur de l'œsophage, et vous voyez ces bandes rouges, en fait, ici, qui sont des plaques d'épithélium qu'on ne devrait pas trouver à cet endroit. Alors, la plupart des gens, ça ne porte pas à conséquence, sauf que c'est tout de même ce qu'on appelle une métaplasie intestinale, c'est-à-dire c'est un état qui est précancéreux, et c'est vrai que beaucoup de ces patients, à terme, développent des tumeurs suite à cet œsophage de Barrett. Personne ne sait vraiment pourquoi, comment ces bandes épithéliales apparaissent dans l'œsophage, d'où l'intérêt de ce groupe d'essayer de dériver, les patients ne sont pas nombreux, de dériver des organoïdes pour pouvoir démarrer un programme de recherche et essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est la dernière image que je voulais vous montrer aujourd'hui, simplement pour vous montrer que c'est possible, alors avec une recette encore une fois un peu différente. Vous voyez, peut-être pour les spécialistes, vous voyez qu'il faut, dans ce cas particulier, ajouter une molécule, une cytokine qu'on appelle FGF10. C'est encore une autre voie de signalisation qui passe par une molécule qu'on appelle FGF. Et quand vous rajoutez ça dans les mélanges avec les compositions qu'on a discutées la semaine passée, eh bien vous voyez qu'on peut obtenir à peu près en 2 semaines de très beaux organoïdes qui sont dérivés de cet épithélium de Barrett. En fait, on ne sait même pas quel type d'épithélium il s'agit finalement. C'est pour ça qu'on aimerait que ce groupe aimerait faire des organoïdes pour pouvoir définir quelle en est l'origine, à quoi il ressemble, comment est-ce qu'on pourrait essayer d'éviter que ça se développe, quelle drogue pourrait-on mettre dessus, peut-être en aérosol, pour éviter que ça passe à un état, de l'état précancéreux à un état cancéreux, etc. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je vous répète que la semaine prochaine, on parlera de mini-cerveaux, de leur utilisation pour essayer de comprendre certaines maladies, comme vous l'aurez, pas toujours très évident, dans une boîte, et d'organoïdes de foie. Je vous remercie.